France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Nouveau front d'un tourbillon décidément sanglant au prochain Moyen-Orient. La guerre entre Israël et l'Iran ne connaît toujours aucun répit ce matin. La République islamique a tiré des missiles sur plusieurs grandes villes de l'État hébreu en riposte à des frappes israéliennes qui ont atteint le territoire iranien. Pour la quatrième nuit consécutive, nous serons sur place auprès de la population dans chacun des deux camps et puis on s'interrogera sur l'objectif final de Benjamin Netanyahou, lequel vise non seulement le programme nucléaire de son rival, mais aussi probablement à briser le régime à la fois militairement et politiquement. Tandis que le monde s'embrase au Proche et Moyen-Orient, donc les dirigeants du G7 se retrouvent eux au Canada pour leur réunion annuelle. Nous serons sur place. L'actualité en France, c'est notamment l'annonce de la fin de la mission de Luca de Meo à la tête de Renault. Enfin, on parlera marché de l'aviation avec notre invité aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du Salon du Bourget. Au quatrième jour de la guerre ouverte entre les deux ennemis jurés, l'État hébreu et la République islamique, le dernier bilan des frappes massives de part et d'autre depuis vendredi fait état d'au moins 24 morts côté israélien et 224 côté iranien, sans compter les centaines de blessés. Et forcément, aujourd'hui encore, de très nombreuses questions demeurent. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, que recherche exactement le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Entend-il uniquement se lancer dans une guerre préventive contre la menace nucléaire supposée de son voisin, ou bien espère-t-il au-delà faire tomber le régime des Mollahs? À l'inverse, les autorités de Téhéran, elles, se retrouvent désormais tiraillées entre la tentation d'organiser une riposte brutale et puis la nécessité d'assurer leur propre survie politique, sans compter que les enjeux sont bien entendu considérables en réalité pour tous les acteurs de la région. Alors, seule certitude dans cette guerre des nerfs, c'est aujourd'hui la population qui pour l'instant a le plus à craindre, en témoigne par exemple les frappes iraniennes de la nuit dernière en Israël. Alice Moreno s'est rendue dans le quartier de Petah Tikva, dans la banlieue est de Tel Aviv. Reportage.
Le missile a frappé directement une tour d'habitation. Raïm vit au 20e et dernier étage du bâtiment.
Il y a eu une grosse explosion. Tout a tremblé et nous avons attendu jusqu'à ce que l'armée vienne nous évacuer de l'appartement. À l'intérieur, tout est cassé. Le plafond est tombé, les fenêtres brisées.
Quelques étages plus bas, des appartements sont éventrés. Raïm connaissait les habitants. 5 d'entre eux sont morts.
J'en connaissais 2 d'entre eux. Et pour 2 autres personnes, je sais qu'elles ne louaient l'appartement qu'une semaine par mois. Je suis très triste de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer.
Les fenêtres des tours voisines ont volé en éclats. Yaker est venu voir sa mère, habitante d'un immeuble situé à 200 mètres de là.
Ma mère vit vraiment pas très loin du lieu de l'impact. Je suis venu voir si elle allait bien et constater les dégâts chez elle, qui sont très minimes, grâce à Dieu. Elle est sous le choc, bien sûr. Elle a eu très peur. L'explosion était si forte.
Beaucoup de voisins, encore sous le choc, sont venus constater les dégâts sur place.
C'est difficile. C'est comme une roulette qui tourne et chacun attend si ça tombe chez lui.
Malgré le bilan humain et matériel, les habitants de cette banlieue chic de Tel Aviv soutiennent en grande majorité la guerre contre l'Iran.
Un reportage à Tel Aviv, donc signé Alice Moreno. Alors, les attaques de la nuit dernière interrogent comment les frappes iraniennes ont-elles pu toucher le sol israélien alors même que le pays se vante d'avoir un bouclier anti-aérien, le fameux dôme de fer censé protéger le territoire des attaques. Eric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
À l'aide de missiles extrêmement puissants et à longue portée, l'Iran parvient donc aujourd'hui à saturer le système de protection israélien.
Oui Thomas, mais il faut bien voir que le système qu'on appelle dôme de fer n'est qu'une des constituantes du bouclier antimissile israélien. C'est pour ainsi dire la première couche, la plus basse, utilisée à l'envi contre les roquettes et autres projectiles envoyés à courte portée et à faible vitesse par le Hamas depuis Gaza ou le Hezbollah depuis le Liban. Réaction ultra rapide du système Iron Dome, précision et efficacité maximale, le dôme de fer a prouvé largement son efficacité à 90%. Les 10% restants, ce sont les roquettes ennemies dont la trajectoire ne pose pas de problème, celles qui ne visent pas de zones habitées et qui sont sont simplement ignorées et explosent dans le désert, voire en mer. Mais le système compte deux, voire trois autres couches de défense antimissiles. Il y a d'abord les missiles antimissiles Arrow 2 et David Sling, susceptibles, eux, d'intercepter des missiles à longue portée, plusieurs milliers de kilomètres, missiles iraniens puissants, lourdement chargés, jusqu'à 1,5 tonne d'explosifs pour le Kodamsha, le plus important d'entre eux, avec une portée de 2500 kilomètres quand même. Et c'est sur ce type d'engin que comptent les Iraniens pour saturer les défenses israéliennes. Intercepter en même temps une salve de 10 ou 20 de ces engins tirés en même temps est toujours possible, mais avec une salve plus importante, on peut être sûr que certains passeront au travers des mailles du filet. Par ailleurs, chacun de ces missiles antimissiles coûte une véritable petite fortune. $1 million pour un seul missile du système Arrow 2, et le stock israélien n'est pas inépuisable. Enfin, il y a une dernière couche de protection, les missiles antimissiles Arrow 3, conçus pour intercepter dans l'espace les engins susceptibles de porter des charge nucléaire, histoire justement que l'interception elle-même ne produise pas de retombées radioactives. Les Israéliens l'ont déjà utilisé avec succès contre des missiles balistiques houthis et également contre des missiles iraniens ces deux derniers jours.
Merci Eric Bigala. Alors après Gaza et la Cisjordanie occupée, mais aussi le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran est donc devenu un terrain de guerre supplémentaire pour Israël. Sans grande surprise d'ailleurs, tant le premier ministre israélien a toujours fait d'une attaque frontale contre Téhéran l'un de ses principaux chevaux de bataille depuis des décennies. Une obsession qui s'ajoute à la volonté israélienne de rester l'unique détenteur de l'arme nucléaire dans la région, dès lors que Tel Aviv accuse aujourd'hui Téhéran de s'approcher d'un point de non-retour vers la bombe atomique. L'occasion aussi pour Benjamin Netanyahou, de plus en plus isolé ces derniers mois sur la scène diplomatique en raison du sort insupportable infligé aux Gazaouis, de détourner l'attention. Choisit-il qu'en Iran, au-delà de la nervosité, de l'angoisse qui suinte désormais à chaque coin de rue, nombreux sont ceux parmi la population, y compris d'ailleurs les plus fervents opposants au régime, à reprocher à Israël d'avoir lancé contre eux cette guerre, la seule misère qui manquait encore à leur vie d'infortune, le tout sur la seule base d'un simple soupçon. Franck Madvan a joint Farhad, 25 ans, lui habite à Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, l'une des nombreuses villes ciblées par les frappes israéliennes.
On est là, au milieu de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Ce n'est pas l'Iran qui a déclenché cette escalade. Israël a lancé une attaque sans provocation directe, sur le base d'une hypothèse, d'une possibilité que l'Iran envisageait peut-être quelque chose. Et c'est bien ça qui est le plus choquant. On peut dire ce qu'on veut sur leur tension entre les deux pays dans le passé, mais cette attaque-là, à ce moment-là, sans preuve tangible, sans alerte immédiate, elle repose entièrement sur une logique préventive, agressive, unilatérale. Si on parle de cette séquence précise, de ce qui nous tombe dessus aujourd'hui, c'est leur initiative, c'est leur choix, et c'est nous qui en payons le prix.
Un témoignage en Iran recueilli par Franck Madvon. Alors dans son ampleur, c'est vrai que l'attaque israélienne contre Téhéran est sans précédent. Depuis vendredi, ce déploiement de forces a mobilisé quelques 200 avions de combat. Elle a par ailleurs été précédée et accompagnée d'opérations secrètes des services de renseignement israéliens menés en profondeur dans le pays. Plusieurs hauts responsables ont été assassinés, de sorte que cette opération vient au fond frapper tout autant le programme nucléaire que les fondements même du pouvoir iranien. Pour autant, doit-on en déduire que le régime des Mollah est aujourd'hui affaibli, élément de réponse avec Anne-Laure Jumet.
Malgré les assassinats ciblés conduits par Israël, le commandement militaire n'est pas désorganisé. En témoigne la riposte iranienne avec ses salves de missiles envoyées vers le sol israélien. Il faut dire que les principaux généraux iraniens ont été remplacés dès vendredi soir. Reste que l'armée israélienne a montré sa capacité à frapper le cœur du pouvoir. C'est un facteur de déstabilisation. Et les forces aériennes auraient même eu l'opportunité de viser l'homme clé du régime, l'ayatollah Khamenei. Mais Donald Trump, le président américain, aurait arrêté le bras israélien. Des informations de presse démenties ce matin par le conseiller israélien à la sécurité nationale. Pour certains observateurs, Khamenei a encore une utilité pour Israël, à poser sa signature au bas d'un accord quand il sera question de la fin de ce conflit, avec à la clé un renoncement à l'arme atomique. De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian essaye de gagner la bataille de l'opinion. Il a appelé les Iraniens à s'unir face à, je cite, cette agression criminelle génocidaire et à mettre de côté les différends. On pense au mouvement Femme, Vie, Liberté, né après la mort de Mahsa Amini. Face aux pertes civiles, le peuple iranien pourrait au moins temporairement se ranger derrière les dirigeants actuels du pays. C'est en tout cas le pari que fait le président iranien.
Et c'est encore dans ce contexte de forte turbulence diplomatique que le G7, petit club élitiste, a débuté hier son sommet annuel au Canada. Plusieurs dossiers épineux figurent au menu de ces discussions, comme la guerre en Ukraine, les questions commerciales, et puis c'est donc surtout ce conflit entre Israël et l'Iran, Julien Nenni, qui devrait s'imposer comme le sujet principal.
Oui, le chiffre peut paraître anecdotique, mais il dit beaucoup de ce qui va se jouer pendant ce G7. Depuis les attaques israéliennes contre l'Iran, le nombre de journalistes accrédités ici a presque doublé pour atteindre plus de 2200. D'ailleurs, depuis le Groenland, où il faisait étape avant de rejoindre le Canada, Emmanuel Macron a résumé en quelques mots la position du G7.
Nous avons une position, je crois, tous unis. Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent.
Mais quel poids, quelle influence ce G7 peut-il avoir sur l'Iran et sur Israël ? Indice, cette fois-ci, les 7 dirigeants ne signeront aucune déclaration commune à l'issue de ces deux jours, preuve que leurs ambitions restent modestes. C'est d'abord en coulisses et pendant les nombreux entretiens bilatéraux que les messages diplomatiques seront passés. C'est le cas aussi sur deux autres dossiers cruciaux. D'abord, les droits de douane que compte toujours imposer Donald Trump à l'Union européenne. Et enfin, bien sûr, la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky est lui aussi attendu au cœur des Rocheuses canadienne pour y rencontrer le président américain et tenter de le convaincre avec Emmanuel Macron d'infliger de nouvelles sanctions à la Russie. La dernière fois qu'un G7 s'est réuni ici à Kananaskis, c'était en 2002 à l'époque. On parlait de G8 car un certain Vladimir Poutine faisait partie du groupe et posait tout sourire aux côtés notamment de Jacques Chirac et George Bush. 23 ans plus tard, il est devenu l'ennemi numéro 1 des principaux dirigeants occidentaux.
Midi passé de 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. Plus de 72 000 victimes identifiées et quelques 5 000 parties civiles enregistrées au dossier. En face, 14 prévenus du simple stagiaire au petit génie de l'informatique sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée après le détournement des données personnelles de milliers d'employés de la société de travail intérimaire Adecco. Pour un préjudice estimé à plus d'1,5 million d'euros, le procès est prévu pour durer 2 semaines. Après 5 années passées à la tête de Renault, l'italien francophone Luca De Meo va quitter la direction général du groupe. Son départ sera effectif à compter du 15 juillet, a précisé hier soir le constructeur automobile. Une annonce surprise dès lors que l'artisan du redressement de la marque aux losanges avait été renouvelé l'an dernier pour 4 ans. Selon la presse, il pourrait rejoindre le géant du luxe Kering pour y seconder donc François-Henri Pinault. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Jusqu'à quel point ce départ est-il susceptible ou non donc de remettre en cause le prochain plan stratégique de l'entreprise ? Déjà ce matin, Camille, l'action du groupe a perdu 7% à la bourse.
Oui, parce que Luca De Meo venait de rempiler pour 4 ans à la tête de Renault et devait présenter très bientôt son nouveau plan stratégique baptisé Futurama. Et c'est donc bien le futur de la marque aux losanges qui s'assombrit sans ce directeur général qui avait fini par incarner la relance de Renault après la crise Carlos Ghosn et la fin de l'alliance avec Nissan. Luca De Meo reste comme celui qui a mené la Renaultlution du nom de son précédent plan stratégique. Il a permis au groupe de limiter les dégâts pendant le Covid et avec la fin des activités en Russie. Il a donné forme à la stratégie de Renault sur les moteurs électriques, a orchestré le lancement de modèles de voitures comme la R5 électrique qui ont modernisé l'image de la marque au prix, il faut bien le dire aussi, de milliers d'emplois supprimés notamment dans les usines européennes du groupe. Mais tout ça se ressentait sur le chiffre d'affaires. 56 milliards l'an dernier, en hausse de 7,4%, une marge confortable de 7,6%, signe que l'entreprise va bien, bien mieux en tout cas que l'état moribond dans lequel Luca De Meo avait trouvé Renault il y a 5 ans.
Alors on l'a dit, Luca De Meo va donc a priori rejoindre Kering où l'attendent là encore, Camille, de très nombreux défis.
Oui, alors dans un message adressé ce matin aux salariés de Renault, Luca De Meo ne confirme pas que c'est bien le groupe de luxe propriété de la famille Pinault qu'il va rejoindre, mais c'est déjà dans la presse et l'action Kering a bondi de plus 10% ce matin à la Bourse de Paris. Kering qui a connu des résultats très mauvais l'an passé, chiffre d'affaires en recul de 12% dans un contexte de ralentissement des ventes en Chine et de guerre commerciale aux États-Unis, Kering ne va pas bien, à tel point que son grand patron, Charles-Emmanuel Pinault, a décidé de déléguer la direction stratégique et commerciale du groupe à quelqu'un d'autre, en l'occurrence Luca De Meo, au défi donc de relever un poids lourd du CAC 40 de plus. On verra si sa méolution est aussi applicable au secteur du luxe.
Merci Camille Magnard. On évoquait en début de ce journal le climat géopolitique bouleversé par les très nombreux conflits au Moyen-Orient. comme la guerre en Ukraine. Eh bien, c'est dans ce contexte que s'est ouvert ce matin le Salon du Bourget près de Paris, où des stands israéliens d'armement ont d'ailleurs été fermés sur décision du gouvernement français, à l'occasion donc du plus grand rendez-vous aérospatial au monde. Eh bien, Hakim Kasmi a rencontré sur place Hervé Daman, directeur général adjoint de Thales. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Hervé Daman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint du groupe Thales, en charge des questions terrestres et aériennes. Alors pour commencer avec vous, on va parler du marché de l'aéronautique qui se porte bien. Terminé la crise du Covid, quels sont les pays, les secteurs et les compagnies qui tirent le marché de l'aéronautique civile?
Effectivement, le marché de l'aéronautique civile, il est en pleine transformation. On a franchi un seuil symbolique de nombre de passagers de 5 milliards et on pense que la flotte mondiale d'ici 2043 devra être pratiquement totalement renouvelée à l'ensemble des appareils. Et donc c'est effectivement un marché qui est aujourd'hui en pleine croissance.
Quels sont les pays qui tirent le marché de l'aéronautique actuellement?
Je pense que c'est un phénomène totalement global, mondial. Donc effectivement, la croissance du trafic aérien, qui est un bon indicateur, est très très forte en Asie, d'une manière générale, mais elle est aussi très forte en Europe aujourd'hui, avec peut-être des considérations différentes. En Europe, on recherche aussi beaucoup d'efficacité dans le contrôle du trafic aérien et également dans les opérations aériennes. Et aux États-Unis, un besoin également de mettre en place plus d'efficacité dans la gestion du contrôle du trafic aérien et dans les opérations avec les compagnies aériennes.
Alors, on sait aujourd'hui, les carnets de commandes sont pleins. Il y a pratiquement 16 000 avions commandés, si on compte tous les avionneurs dans le monde aujourd'hui. Mais il reste malgré tout quelques difficultés au niveau de la supply chain. Il y a le contexte géopolitique, il y a les coûts de l'énergie qui ont augmenté, peut-être aussi les droits de douane qui vont augmenter aux États-Unis. Est-ce que cela a des répercussions chez vous, chez Thales?
Globalement, effectivement, on constate, je dirais, quand même une amélioration de la situation sur la chaîne d'approvisionnement. Mais néanmoins, on reste avec des tensions qui sont persistantes. Et je pourrais citer deux exemples de certains nombres de composants, comme les circuits imprimés, ce qu'on appelle les PCB dans notre métier, et les pièces mécaniques. Sur ces aspects-là, nous continuons à avoir des tensions. Pour autant, on essaie d'atténuer ces difficultés en travaillant sur notre chaîne d'approvisionnement, la diversification. Donc on essaie d'avoir plusieurs sources, où on réinternalise un certain nombre d'opérations qui auparavant étaient faites chez nos sous-traitants. On accompagne nos sous-traitants en finançant leur augmentation de cadence de production. On leur donne plus de visibilité en leur donnant des commandes sur le plus long terme, de façon à ce qu'ils puissent nous accompagner dans les ramp-up que nous pouvons avoir.
Alors ce Salon du Bourget s'ouvre aussi dans un contexte géopolitique très particulier, sous fond de tension entre l'Iran et Israël, mais pas que, il y a aussi la guerre en Ukraine. Le président de la République a demandé aux équipementiers comme vous, aux fabricants d'armes et de munitions, d'augmenter leur cadence. Il y a aussi ce plan de l'Union européenne, 800 milliards d'euros, afin de réarmer l'Europe. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Êtes-vous prêt à répondre à la demande du président de la République?
Moi, je dirais déjà que, effectivement, la situation géopolitique, avec ses multiples crises de par le monde, font qu'il y a une plus forte demande dans l'ensemble des domaines de la défense que nous couvrons. Et nous n'avons pas attendu, en fait, les discours politiques pour augmenter nos capacités de production. Et nous avons déjà démontré, dans les deux dernières années, nos capacités à augmenter rapidement nos cadences de production. Et je peux, en ça, par exemple, donner un exemple. Nous fabriquions, en 2023, une dizaine de radars Grand Master à Limours, dans l'Essonne, en France. L'année dernière, on a fabriqué presque 30, 28 exactement, et dès cette année, nous serons proches de 40. Donc nous avons démontré que nous pouvons le faire, et s'il faut aller plus vite, on aura les moyens de le faire, on sait comment le mettre en place, et avec les pouvoirs publics en France et dans les autres pays, nous sommes prêts à accompagner ces demandes additionnelles qui pourraient nous être faites.
Hervé Daman, on le voit aujourd'hui, même si la France bénéficie de certaines technologies, on a du retard dans certains secteurs. Par exemple, je pense aux drones. Aujourd'hui, l'armée française s'équipe par exemple aux États-Unis, même en Israël, pour ces drones. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un gros travail à faire en termes d'innovation et de production pour avoir plus de souveraineté?
Déjà, moi, je répondrais que l'innovation est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, parce qu'effectivement, il faut pouvoir répondre aux besoins immédiats de bon nombre de nos forces armées, et à commencer par la France, d'avoir besoin de plus d'équipements, plus de munitions, plus d'équipements maintenant. Mais c'est notre travail quotidien également de pouvoir mettre en œuvre de l'innovation, innover, investir, de façon à préparer des solutions de demain. Et effectivement, dans les drones, je mentionnerai l'apport de l'intelligence artificielle. Et là, je pense que Thales a beaucoup de choses à pouvoir mettre sur la table. En fait, nous avons au sein du groupe plus de 800 experts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ces drones seront d'autant plus efficaces que s'ils fonctionnent en essaim, donc de façon totalement autonome. Et l'apport de l'IA que nous pouvons associer à l'utilisation de ces drones sera probablement un élément décisif pour les armées de demain.
Hervé Daman, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Et tout de suite, on repart à la maison de la radio.
Hervé Daman, donc directeur général adjoint de Thales, et merci également à vous, Hakim Kasmi. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi estival sur l'ensemble du territoire. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Paumet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.